Daniel Millard est bien connu en Martinique. Surtout en tant que chroniqueur radio, apprécié et suivi pendant des années par un grand nombre d'auditeurs. Cet homme aux talents et aux intérêts multiples et variés est à la fois pasteur, théologien, philosophe, éducateur, administrateur et écrivain. Mais c'est surtout l'homme que j'ai voulu rencontrer lors de mon passage dans la région de Fort-de-France. L'homme et son expérience familiale unique avec la maladie et tout ce qui en découle.
Vous étiez jeune et c'était le moment de fonder une famille.
Eh oui.
Vous avez fondé une famille et quelque part, à travers la fondation de cette famille et ce que vous allez vivre ensuite, et vos réflexions philosophiques et votre foi vont être mis à rude épreuve. Racontez-nous un petit peu.
Mais disons que nous étions préparés, mon épouse et moi, à servir. Nous avons été pétris par cette éducation qui mettait l'emphase sur la beauté du service, donc l'engagement au service chrétien. Et nous sommes dit qu'il faut que nous puissions nous former. Donc mon épouse s'est formée en psychologie et en littérature, tandis que moi je me formais en philosophie et en psychologie. Et nous avons vécu une expérience amoureuse merveilleuse. Et puis ça a été comme un coup de tonnerre lorsque, lors de la première grossesse, nos premiers enfants, ça s'est très mal passé puisque mon épouse a eu une crise d'éclampsie et tous les problèmes, je dirais, concomitants, qui ont fait qu'elle a dû recevoir des produits sanguins et à partir de là, tout a dérapé et ça a été l'entrée en maladie.
Donc vous avez eu à ce moment-là des jumeaux,
des jumeaux, oui.
Une femme a donné naissance à des jumeaux.
Ouais.
Elle a dû recevoir des
transfusions
sanguines.
Et malheureusement, ses poches étaient contaminées et finalement, ça a été l'entrée sur un parcours très difficile.
Elle a fait partie de ces gens qui ont été contaminés à une époque où on n'avait pas encore pris toutes les précautions.
Voilà, il n'y avait pas de protocole de sécurité, ce qui fait que ça a dégénéré assez rapidement. Mais je me rappelle encore de cet épisode où elle a dû être emmenée d'urgence en réanimation et où pendant près de 15 jours, les soignants ont lutté avec elle et je me rappelle encore demandant au chef de service ce qu'il en était et lui de me dire que son pronostic vital était engagé. Et il me disait, et je me rappelle encore de son expression, « Ah, vous savez, monsieur, on fait tout ce qu'on peut, mais je ne suis pas le bon Dieu. » Alors j'ai compris que c'était fichu, quoi, c'était très mal engagé. Et c'est à ce moment-là que on a beaucoup prié, les frères et sœurs ont prié, l'Église a prié, et le Seigneur nous a fait grâce en nous donnant une période de rémission qui nous a permis quand même d'élever quand même les enfants jusqu'à l'échéance. C'était tout au début de cette pandémie et finalement c'était cruel parce qu'il n'y avait pas de trithérapie, il n'y avait pas de médicaments efficaces. On bricolait au niveau des équipes soignantes et même la prise en charge était vraiment à minima, ce qui fait que l'espérance de vie était, disons que la plupart des personnes atteintes à cette époque-là sont aujourd'hui, ne sont plus de ce monde parce qu'on ne pouvait pas les prendre en charge. Donc les stigmates de la maladie étaient très évidents. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on peut masquer ces stigmates-là et où les gens vivent pratiquement normalement. À cette époque, le corps subissait des contre-coups et très rapidement, c'était le commencement de la fin.
Comment est-ce que vous avez vécu ça? Vous aviez deux jeunes enfants qui étaient là. Il fallait continuer à vivre.
Ça a été très difficile parce que, vous savez, il faut déjà se surmonter pour soi-même, essayer de trouver la force pour soi-même. Et je crois que si je n'avais pas cette encre de la foi, que les choses auraient été pires. J'ai bénéficié du secours, du soutien de ma famille et des personnes qui, à l'époque, étaient au courant parce qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas trop se confier. C'était très mal perçu et reçu. les personnes qui étaient à cette époque atteintes étaient stigmatisées, vilipendées. Je me rappelle encore que certains politiques voulaient créer même des sidatoriums pour mettre les gens à l'écart. Et que dans certains quartiers, on chassait ces personnes à coups de pierre, hein, comme des bêtes, comme des chiens. Donc c'était vraiment une époque où il fallait se taire, se cacher, socialement.
Pourtant, vous n'étiez pas, entre guillemets, responsable. Vous étiez victime d'une erreur, mais vous étiez quand même dépestiféré.
Pas des pestiférés, mais vous savez, il y a une suspicion qui demeure, parce que pourquoi le sang, le sexe et tout cela, vous voyez, c'est un cocktail. Donc, socialement, c'était très difficile, très difficile.
Et c'est la foi, le soutien de Dieu vous a permis de continuer à avancer, et vous avez même été plus loin, vous avez eu d'autres enfants.
Oui, c'est-à-dire que pour certains, ça va paraître paradoxal, mais la force de l'amour, la puissance de l'amour, peut-être le désir inconscient de lutter contre les forces négatives ou contre la mort, pour la nommer. C'est comme cela.
Donc vous avez eu deux autres enfants,
voilà.
Par la suite. Et eux n'ont pas été atteints
aucun d'eux, grâce à Dieu.
Par cette maladie.
Voilà. Alors c'est pour cela que j'ai pu rédiger un ouvrage intitulé « Vivre sous la férule du sida » qui est apparu chez l'Harmattan, parce que c'était très difficile de se dire, de raconter, d'en parler. Aujourd'hui, il y a un peu de distance, donc je peux me risquer à verbaliser cela. Mais à cette époque, c'était vraiment pratiquement impossible. Je suis resté peut-être 2 mois sans parler, même ma famille ne pouvait pas extraire un mot. Parce que
c'était comme bloqué.
Bloqué, tétanisé. Et le fait d'écrire a été véritablement une thérapie pour moi, pour exprimer quelque chose de cette souffrance, mais aussi de ma foi en Dieu, parce que malgré cela, le Seigneur m'a fait grâce de continuer à croire en lui, à croire qu'il n'est pas l'auteur du mal. Et quand on a cette perception d'un Dieu d'amour qui ne peut pas faire cela, qui ne peut pas permettre cela, ça change la donne, parce que justement, tous ceux qui sont atteints d'épreuves, je ne suis qu'un parmi d'autres. Vous savez, dans cette vie, il y a tellement de drames. On a l'impression que Dieu est responsable, mais il n'est pas responsable. Au commencement, il a tout créé parfait et bon. C'est par le choix de l'homme que l'irresponsabilité, l'appât du gain, tout cela mélangé donne des situations dramatiques, la guerre, la famine, puis des pandémies de ce genre. Donc, quand on comprend que Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais qu'au contraire, il est là pour nous accompagner à travers cette souffrance, ça change les choses. Donc,
vous l'avez perçu comme étant de votre côté.
Ah si, si. En lisant la Bible, en m'appuyant sur les promesses de Dieu, jusqu'à maintenant, je crois qu'il est vivant et qu'il est un Dieu d'amour et qu'il se tient d'autant plus près de sa créature qu'elle est souffrante.
Tu m'avais dit que tu m'aimerais au point que personne ne pourrait m'aimer plus que toi. Eh bien, lui dis-je, c'est encore ce que j'ose te proposer maintenant. J'aimerais tellement que tu te sentes emmitouflé, enveloppé de mon amour comme de manteau bien chaud par une triste nuit d'hiver. Tu sais, tout ce qui nous arrive n'est pas le fruit du hasard. Il y a un dessein que nous ne comprenons pas. Il y a un Dieu qui ne nous a pas abandonnés. Il est aussi réel que le bonheur que tu me donnes en vivant près de moi. Ce bonheur ne peut exister tout seul. S'il existe, Dieu existe. L'équation peut paraître simple, mais c'est la seule qui confère un peu de raison, de logique à tout ce que nous sommes en train de vivre.
Dans la suite, votre épouse, qui a quand même, grâce à Dieu, pu vivre pendant un certain nombre d'années, est allée tranquillement vers sa fin.
Oui, parce que nous avons demandé au Seigneur ensemble qu'il nous donne la possibilité d'élever nos enfants au moins jusqu'à leur 15e année. Il a pu la maintenir jusqu'à ce qu'ils aient au moins 16-17 ans, donc je crois qu'il a fait grâce. Et on a pu leur donner ce qu'on a pu leur donner pendant ce temps ensemble. Et le Seigneur sait toutes choses, mais ça a été une expérience très forte parce que cela nous a unis tous dans la famille très étroitement à travers cette souffrance.
J'allais justement vous poser la question, comment vos enfants ont vécu ça? Parce que vos enfants étaient jeunes, mais quand même, ils étaient bien conscients de tout ce qui s'était passé, de tout ce qui se passait.
Nous avons essayé de vivre une vie la plus normale que possible. Ils avaient des activités sociales, de jeunesse. On faisait la fête à la maison. Chaque sabbat, c'était un moment de fête. Chaque sabbat, c'est un moment où la famille vivait un moment intense. Je pense que nous avons essayé de leur donner une vie la plus normale. Mais bien sûr, la souffrance est là. Et de voir leur maman atteinte et affaiblie, puis ensuite leur père, ce sont des choses qui marquent.
Parce que vous avez aussi été atteint par cette maladie.
Donc finalement, je crois que ce sont des choses qui marquent profondément. Chacun a été atteint émotionnellement d'une manière particulière et chacun le manifeste à sa façon. Mais je crois que le Seigneur fait grâce puisque eux aussi ont gardé la foi, ont grandi dans la foi, sont des personnes engagées dans la foi, en dépit de leur souffrance et de cette frustration, puisque ça reste quelque chose d'injuste. Quand vous venez à la vie, vous préparez à la vie et que finalement, cela vous tombe dessus.
Encore dans la fleur de l'âge, finalement, tous les projets changent. On peut plus...
Il n'y a plus de projet.
Il n'y a plus de projet
parce que vous n'avez plus de, d'échéance. Vu les fonctions que j'occupais, ce sont des fonctions où il faut planifier, il faut projeter. Vous avez un agenda en main, vous mettez en route des projets, vous ne savez pas si dans 3 mois vous serez là pour les mener à bout. Donc c'est un stress permanent, une frustration. Et il faut surmonter cela pour continuer à fonctionner, à vivre et professionnellement aussi exister. Donc on peut dire que le Seigneur est grand et puissant.
Et vous a soutenu à travers tout ça.
Soutenu, oui.
Parce que dans cette période-là où votre femme était malade, où vous-même vous étiez atteint par la maladie, même si vous avez eu plus de chance, parce que vous avez eu la trithérapie, dans votre cas, qui a pu vous aider à avancer. Dans toute cette période-là, vous avez fait beaucoup de choses.
Oui, j'ai l'impression d'avoir mené plusieurs vies, parce qu'on a été très occupé.
Ça, c'est la période où vous avez été professeur,
bon,
pasteur.
J'ai eu l'occasion d'être professeur, responsable d'établissement scolaire, responsable de département au niveau de l'église adventiste, enseignant, pas mal d'activités très prenantes.
Une vie bien occupée, avec toujours cette épée de Damoclès, mais qui ne vous empêchait quand même pas de continuer à fonctionner.
Vous savez, lorsque vous essayez de répondre aux besoins des autres avant les vôtres, et que vous vous souciez des autres, des élèves, que vous les aidez dans leur évolution, que vous faites beaucoup de cure d'âme et d'accompagnement. Donc les problèmes des autres vous préoccupent et vous donnez pour les satisfaire, ce qui fait que ça minimise un petit peu votre propre souffrance. Vous arrivez à la terre un peu comme cela.
Ça, c'est une partie du traitement divin que de se donner pour les autres.
Absolument. Il y a toujours quelque chose en retour, il y a quelque chose qui vient vous enrichir et vous apaiser également.
Et alors, vous le disiez tout à l'heure, au niveau familial, cette épreuve vous a beaucoup soudé.
Par la force des choses, parce que vous êtes obligé de garder un certain secret, puisque ça servait à quoi d'effrayer les gens. Vous savez, à l'époque, socialement, être à table avec quelqu'un, partager un couvert, puisque à l'époque, on n'avait pas vraiment toute l'information sur cette maladie, on pensait que le fait de simplement de partager un couvert serait contaminant. Mmh. Donc, vous imaginez, vous êtes invité, finalement, ça vous amènerait à l'isolement total. Hein. Et pour nous, en tant qu'adultes, on comprend la situation, mais imaginez que les enfants soient ainsi marginalisés, ça aurait été quelque chose de vraiment grave. Donc, on a essayé de gérer tout cela.
Et vos enfants, aujourd'hui... D'une certaine manière, on pourrait dire que ce sont des enfants qui vont bien. Ils ont Vous me disiez tout à l'heure, vous avez certaines satisfactions avec vos enfants.
Oui, parce qu'ils avancent dans la vie, ils font leur foyer, ils ont fait les études qu'ils voulaient faire, ils sont productifs pour la société, et ils ont aussi un engagement spirituel très fort, donc c'est une grande satisfaction de voir que le Seigneur les a maintenus malgré cette épreuve.
Ça fait partie des choses qui vous aident à vivre aujourd'hui ?
Certainement. Oui. Quand on regarde la trajectoire, quand on regarde quel était le projet de l'ennemi de terrasser, de détruire, comme dit l'Évangile, il vient pour quoi faire ? Pour tuer, meurtrir et détruire. Et si le Seigneur ne met pas la main, il arrive à ses fins, mais par la grâce de Dieu, eh bien, il n'atteint pas son but. Jusqu'à maintenant, le Seigneur est grand et il protège.
Vous m'avez aussi dit qu'il y avait quelque chose de frappant dans votre famille, peut-être avec vos enfants, c'est que vos enfants ne pouvaient pas être des gens insouciants, qui passent à travers la vie sans se poser de questions, que ça donnait, cette épreuve a donné de la profondeur à votre famille et à vos enfants.
Certainement, parce que une telle expérience de vie ne vous laisse pas indemne. Vous ne pouvez pas prendre la vie en sifflotant. Hein. C'est quelque chose de très pesant, même si on fait tout pour vivre normalement, mais ça reste là, présent, c'est marquant. Et je crois qu'ils ont porté des choses qu'ils n'avaient pas apportées en tant qu'enfants, ça c'est sûr. Et de ce fait, ça les rend un peu plus graves, un peu plus conscients de la vie. Et, ils font avec.
Ça leur donne une certaine maturité ?
Ah, certainement. Certainement.
Est-ce que, lorsqu'on passe à travers une expérience comme ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on a toujours plus ou moins en tête, quelque part dans l'arrière-cerveau, si je peux dire ça comme ça, ou est-ce qu'il y a des moments où on l'oublie ?
Très rarement. Parce que si vous l'oubliez, on vous le rappelle.
Parce que quand vous avez une émission
comme celle-là, où vous me ramenez à des choses que généralement on laisse entre deux eaux, hein, ça flotte entre deux eaux. Mais serait-ce le regard des autres ? Vous êtes une personne publique, donc vous voyez bien que dans le regard des autres, ils se posent la question où vous en êtes, comment vous. Non, les gens vous auscultent en permanence. Donc. Vous ne pouvez pas traverser la vie comme si... On ne peut pas oublier. C'est présent chaque jour.
Si j'ai confié à ces pages quelques aspects de ces belles années de lutte, un peu de ma vie, il est vrai que c'est à des fins thérapeutiques. On dit qu'écrire soulage, alors j'ai essayé. C'est afin de tenter de tenir les rênes de ma douleur. Mais au-delà, c'est pour que, si d'aventure, toi qui as ouvert ce livre, tu passais par un chemin ressemblant au nôtre, tu prennes courage. Ma fille m'a dit pas plus tard qu'hier, tu sais, quand il t'arrivait de voyager et que tu n'étais pas là, maman, elle nous disait, quand est-ce qu'il rentre, mon mari chéri, votre petit père? Je n'aurais jamais cru trouver un mari comme lui. Je crois qu'elle t'adorait. Doucement, lui dis-je en lui pinçant la joue. On n'adore pas les gens, on les aime très fort. Souvent, mon cœur frémit quand j'aperçois chez l'un ou l'autre de mes enfants mes trésors, des expressions, des mimiques qui, à leur insu, comme un précieux et malicieux clin d'œil, me rappellent tant celles que je reverrai bientôt.
Et c'est ça qui fait que cette violence qui s'empare de vous à certains moments, parce que vous avez été violenté, c'est un vrai vol, un vrai viol de votre vie, ça produit des sentiments de violence. Je comprends très bien que certaines personnes tombent dans la vengeance aveugle.
Contre le système ?
Contre le système.
Les médecins contre...
Ça peut se comprendre. Parce que c'est une souffrance qui doit s'exprimer. Maintenant, ce n'est pas la meilleure façon de l'exprimer, mais certains peuvent l'exprimer ainsi, par une violence soit contre eux-mêmes, ou une violence tournée vers les autres. Et parfois, ce sont des sentiments qui vous animent, parce que cette injustice-là, elle vous submerge.
Vous avez pu l'exprimer, cette frustration profonde, vous avez pu l'exprimer par exemple aux gens du milieu médical, ou bien ça a dû rester à l'intérieur, vous avez dû l'exprimer autrement.
Ben, vous savez, les vrais responsables, on ne les a pas sous la main. Donc finalement, les intermédiaires ou les soignants sont des personnes qui ont fait ce qu'ils ont pu, avec leur bonne volonté et au mieux. Non, je n'ai rencontré que des personnes vraiment correctes et des personnes bien, des personnes qui ont vraiment des médecins, vraiment qui se sont donnés pour essayer de soulager, de faire ce qu'ils pouvaient par rapport aux connaissances de la science jusqu'à aujourd'hui. Mais en quelque part, vous ne pouvez pas ne pas être en recherche du responsable. Un responsable n'est pas coupable, mais c'est très difficile. Très difficile. Parce que vous avez le sentiment de vivre quelque chose d'injuste. Alors pour échapper à cela, il y a différents moyens. Certains se noient dans l'alcool, dans le festif à 100% ou à 200%. D'autres, c'est la violence. Personnellement, j'ai choisi de me réfugier, non pas dans quelque chose qui m'endort. Cela ne m'endort pas, ce n'est pas un somnifère.
Ce n'est pas une illusion.
Ce n'est pas une illusion. Mais dans les promesses réelles et véritables de la parole de Dieu que j'ai pu expérimenter et que j'expérimente jour après jour. Ça vous donne une paix. Ça vous donne une espérance. Cela vous libère. Et cela vous rend disponible pour les autres. Sans quoi, ce n'est pas possible. Vous voyez ?
Dites-moi quelques mots sur ce que le fait d'avoir vécu cette expérience vous a apporté. Pourquoi ça vous a aidé, par exemple, lorsque vous avez été chroniqueur à la radio et que vous parliez du bonheur, si je ne me trompe pas. Ça vous a aidé ?
Une telle expérience vous bouleverse et vous amène très proche des choses essentielles et très proche des gens également, et très proche des gens qui souffrent aussi. Ça vous donne une certaine solidarité avec ceux qui sont dans la souffrance, et vous comprenez mieux, sans parole, vous détectez même cette souffrance chez les autres. Effectivement, pour ces chroniques, je pense que ça me permettait d'avoir un angle d'attaque un peu différent, parce qu'on est différent de par ce qu'on a vécu. Et je crois que c'est une expérience marquante. Alors, tout au long du processus, vous passez tour à tour par différentes émotions. Il y a eu des moments de révolte, des moments où vous aviez le besoin de passer à l'acte, d'en finir, parce que c'est parfois intenable.
L'idée vous est venue régulièrement ?
Il faut l'avouer. Bien sûr. Il y a eu un moment où c'était pas de la vie, c'était de la survie, parce que... quelque part, vous étiez taquiné par l'idée de savoir comment finir avec tout cela. Et pour vous et pour les autres. Vous voyez un peu à quoi je peux penser.
Oui, tout à fait.
C'est quelque chose d'humain. Ça peut peut-être choquer les croyants, mais je m'en excuse. Mais c'est quelque chose de tout à fait humain quand vous êtes à bout, quand vous êtes à vos limites. Vous cherchez une solution pour échapper à cette pression permanente. Là encore, ce sont les promesses de Dieu. Le fait de comprendre que Dieu n'était pas de la partie, ce n'est pas lui l'auteur de cela, et qu'il a fait des promesses, qu'il revient pour redonner à chacun sa dignité, pour rétablir chacun dans ses droits. Et j'attends ce jour-là où je serai rétabli dans ses droits, où mon épouse sera rétablie dans ses droits, où mes enfants seront rétablis dans leurs droits, parce qu'ils ont été spoliés de la vie qu'ils devaient avoir. Et quand l'État vous parle d'indemnisation, etc., vous savez, ce sont de grands mots, mais j'attends ce jour où le Seigneur lui-même rétablira tous ceux qui ont souffert. Vous parlez de mon expérience, mais tous ceux qui ont souffert injustement, qui ont eu des vies carrément saccagées. Le Seigneur tient compte de tout cela. Il prend note de tout cela. C'est un Dieu qui n'aime pas voir sa créature souffrir. Il a créé sa créature pour qu'elle soit heureuse, qu'elle vive dans le bonheur, et éternellement heureuse. Il revient pour cela, et nous croyons en cela. C'est la solution à tous nos problèmes, c'est le Christ, c'est Jésus, c'est sa grâce, ce sont ses promesses. Mais il faut les expérimenter. Ce n'est pas quelque chose dont on discours, hein, ce n'est pas quelque chose dont on cause comme cela. Il faut les vivre, il faut les mettre en œuvre et voir comment ça change la vie. Et en tant que prédicateur, en permettant à d'autres de connaître ces promesses bibliques et d'en vivre, je vois la différence dans leur vie, le changement, là, on appelle ça la conversion, mais le changement radical dans leur vie. Ça bouleverse une vie, ça révolutionne une vie que de connaître la parole de Dieu. En tout cas, personnellement, je dis que j'ai eu la chance, si on peut utiliser ce terme, de prendre naissance dans une famille chrétienne engagée, de missionnaires qui m'ont permis de connaître le Christ. J'ai eu la chance d'avoir des influences qui m'ont permis très tôt de m'engager pour le Christ. Et c'est ce qui m'a permis et qui me permet de traverser cette vie, je crois, avec une certaine sérénité, puisque avec le temps, on comprend mieux certaines choses. Et puis, cette espérance-là vous apporte une certaine paix.
Vous ne faites pas de projet, vous l'avez dit tout à l'heure, mais si vous deviez exprimer un vœu, quelque chose que vous aimeriez réaliser avant votre mort ou avant que le Christ ne revienne, ça serait quoi ?
C'est de voir de plus en plus de gens ayant la connaissance de Dieu pour être heureux. Parce que déjà sur cette terre, bien qu'elle soit une terre qui soit souvent balayée par des vents contraires, il y a quand même beaucoup de bonheur dans cette vie. Et il faut pouvoir... il faut aimer la vie, parce que même si elle est traversée par des courants contraires, la vie est belle, et elle est belle avec le Seigneur. Donc, ce que moi je souhaiterais, c'est être utile, autant que cela soit possible, pour permettre à d'autres personnes de connaître le Seigneur, et surtout ceux qui souffrent, ceux qui ont des difficultés, d'avoir cette espérance-là qui transcende une vie, qui permet de goûter déjà maintenant un moment d'éternité, parce que l'éternité commence maintenant, d'une certaine manière. Donc il faut déjà, dès maintenant, apprécier la vie, même s'il y a quelques petits pépins.
Pépins.